Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Protégez-vous. Au programme, de beaux matins et comment choisir une résidence privée pour aînés. Bonne écoute.
De beaux matins. Que vous cherchiez une cafetière à espresso manuel ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer. Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023, dans le magazine Protégez-vous. Il n'y a rien de mieux qu'un bon café pour commencer la journée. Pour pouvoir l'apprécier, il faut toutefois trouver un appareil qui permet d'obtenir un café bien équilibré, aux arômes agréables et à la mousse créma, onctueuse. Nous avons mis à l'épreuve 34 modèles, dont 21 cafetières manuelles et 13 automatiques. 5 baristas et torréfacteurs ont goûté à l'aveugle les cafés produits par chacune des machines. Nous avons également évalué divers aspects techniques des cafetières, comme leur ergonomie, leur rapidité, le bruit qu'elles produisent ainsi que la facilité à nettoyer leurs composantes. Au-delà de la performance, vous cherchez certainement un appareil fiable et facile à réparer. Nous avons donc sondé quelques 3000 répondants issus du panel, la communauté de consommateurs de Protégez-vous, afin d'identifier les marques les plus fiables et les bris les plus fréquents. Un groupe de 5 réparateurs nous a également aidés à évaluer la réparabilité des cafetières, de même que les coûts associés. Conclusion, les bris sont assez fréquents, mais il y a moyen de remettre ces appareils en état, à condition d'y mettre le prix. La dépense peut être justifiée si vous êtes satisfait de votre cafetière et que vous désirez la garder longtemps. Pour ce test, Recyc Québec a collaboré à l'élaboration de la cote de réparabilité de Protégez-vous, destinée à contrer l'obsolescence et à favoriser le prolongement de la durée de vie des produits, notamment par la réparation. Vous trouverez les évaluations de toutes les cafetières testées en ligne. pv.ca/cafetière. Manuel ou automatique? Une cafetière manuelle vous permet de contrôler plusieurs paramètres, dont la force de compression et le temps d'extraction du café. Vous pouvez ainsi produire des espressos qui répondent au goût de chacun. Cela exige toutefois une série de manipulations. Remplir le filtre, compresser le café, etc. Mais surtout une bonne connaissance de la machine. Il est important de prendre le temps de tester plusieurs combinaisons de café, mouture, temps d'extraction et force de compression avant d'obtenir le café parfait. Les cafetières manuelles sont en général moins chères que leurs cousines automatiques. Si vous préférez la simplicité, optez pour un appareil automatique qui calcule lui-même la quantité de grains requise pour chaque tasse, les moûts, compresse le café et fait couler ce dernier selon le volume d'eau désiré ou préprogrammé. Ces machines font aussi elles-mêmes des cycles de rinçage et de nettoyage. Les cafetières automatiques produisent plus rapidement les cafés que les modèles manuels. Cependant, la facilité et la rapidité ont un prix. Les meilleures cafetières automatiques se vendent entre 1 200 et 2 395 $. Seul un de nos bons choix affiche un prix sous la barre des 1 000. Les dimensions de l'appareil. Les machines à espresso sont généralement volumineuses, en particulier les modèles automatiques. Ainsi, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace sur votre comptoir et de dégagement sous l'armoire, si nécessaire, pour remplir les réservoirs d'eau, de grains et de lait. Le réservoir d'eau. Si vous placez la cafetière sous les armoires, privilégiez un modèle équipé d'un grand réservoir pour faire plusieurs cafés sans avoir à le remplir. Les réservoirs des appareils testés ont une capacité qui varie entre 1 et 3 litres. Certaines machines pourraient donc produire environ une trentaine d'espressos, alors que d'autres pourraient en faire près de 100. Les cafetières dotées d'un réservoir d'eau situé à l'avant ou sur le côté sont plus pratiques que celles qui ont un réservoir qu'il faut enlever et replacer par le haut. 4 de nos recommandations possèdent un réservoir se trouvant à l'avant. Le moulin intégré. Toutes les cafetières automatiques sont munies d'un moulin intégré. Du côté des machines manuelles, c'est plus rare. Les modèles que nous avons évalués offrent de 5 à 16 options de mouture. Le mousseur ou la buse. Si vous êtes un adepte de latte ou de cappuccino, procurez-vous un appareil doté d'un mousseur capable de produire une mousse généreuse, à bulles fines et aérées. Il existe plusieurs systèmes. Buse traditionnelle sous laquelle vous placez une tasse à lait, ou encore mousseur automatique à tube ou avec contenant. Avec un mousseur automatique qui comprend un contenant, il vous suffit de remplir le réservoir à lait. La cafetière mousse ce dernier et assemble les cafés elle-même. Parmi nos recommandations, les laits moussés par les cafetières automatiques ont été moins appréciés de nos dégustateurs que ceux des appareils manuels. En choisissant une cafetière manuelle, vous pourriez mieux contrôler le moussage du lait. Vous écoutez présentement « De beau matin », que vous cherchiez une cafetière à espresso manuelle ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer. Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine « Protégez-vous ». Les porte-filtres pressurisés. Pour obtenir un délicieux espresso avec une belle créma, vous devez respecter certaines étapes comme choisir la bonne mouture, bien doser le café dans le porte-filtre et le compresser adéquatement. Si vous en êtes à vos premières armes comme barista, un porte-filtre pressurisé deviendra probablement votre meilleur allié car il permet de corriger toute erreur dans le dosage ou la compression du café, ou dans la finesse de sa mouture en créant une forte pression. 4 de nos recommandations viennent avec des porte-filtres pressurisés. La rapidité et le système de chauffe. Le temps moyen pour faire couler 2 cafés consécutifs varie énormément d'une cafetière à l'autre. Il va d'environ 1 minute et demie à près de 5 minutes, ce qui comprend le temps de préchauffage. La rapidité de l'appareil dépend en partie de son système de chauffe. En général, les cafetières, automatiques comme manuelles, destinées à un usage domestique sont dotées d'un système thermobloc ou thermocoil qui chauffe l'eau sur demande et rapidement. Certaines des cafetières manuelles évaluées possèdent pour leur part une bouilloire qui peut chauffer un plus grand volume d'eau. Ces systèmes prennent du temps à chauffer, mais ils offrent une meilleure stabilité de température que les thermoblocs et thermocoils. Les appareils qui comprennent une bouilloire sont généralement plus chers, mais les bris sont moins fréquents, selon les experts consultés. Parmi nos recommandations, la Gaggia Classic Pro, les deux Lelite et la Rancilio sont dotées d'une bouilloire. Fiable et réparable. Notre sondage de fiabilité montre que les cafetières à espresso brisent assez souvent, notamment en raison de la complexité de leur mécanisme interne et de leur utilisation régulière. En effet, les cafetières manuelles ont un taux de fiabilité moyen de 68% et les automatiques de 60%. Heureusement, la plupart des cafetières sont facilement réparables. Si la cote de réparabilité diffère d'un modèle à l'autre, c'est surtout en raison du coût de réparation et de la facilité à trouver un réparateur qui connaît le produit. Cette année, nous avons réévalué le coût des réparations et, sans surprise, les prix ont augmenté, particulièrement pour des réparations de moulins. Notre panel était composé de réparateurs d'Ital Café, de Service Café, de Café Express, de la machine à café et d'un autre commerce qui souhaite garder sa participation anonyme. Cette année aussi, certains de nos réparateurs nous ont indiqué qu'ils n'avaient plus accès aux pièces de Breville. Le fabricant offre tout de même un service de réparation, plus cher selon les réparateurs, par le biais d'un de ses centres de service à Toronto ou à Calgary. Les fuites d'eau sont assez fréquentes et peuvent être causées par plusieurs éléments abîmés ou brisés. Joints défectueux, embouts de valve brisés, tuyaux percés, etc. Lorsque les joints d'étanchéité sont en cause, cette réparation coûte en moyenne 70 $ pour une cafetière manuelle et environ une centaine de $ pour une automatique. Vous devrez débourser en moyenne 130 $ pour faire changer la pompe défectueuse ou brisée de votre appareil. Notez que les pompes des cafetières Jura font rarement défaut. Réparer un moulin brisé vous coûtera environ 170 $, mais pour certains produits, les prix peuvent s'élever jusqu'à plus de 600 $. Les moulins des appareils Jura coûtent nettement plus cher que ceux des autres marques. Selon notre panel de réparateurs, il arrive que les gens qui utilisent du café très gras pensent que leur moulin est brisé, alors que ce dernier ne nécessite qu'un bon nettoyage. Si vous égarez ou brisez votre porte-filtre, vous pourrez généralement en racheter un chez un réparateur ou chez le fabricant, à un prix variant entre 10 et 60 $. Pour un même modèle, les prix varient beaucoup d'un endroit à l'autre. N'hésitez donc pas à magasiner un peu. Les cafetières de marque Jura coûtent cher à faire réparer, peu importe le bris en question, et elles présentent un taux de fiabilité assez moyen de 57 %. Malgré tout, cela n'empêche pas les utilisateurs d'être très satisfaits de cette marque, en partie parce que la performance de ces appareils est excellente. En effet, 90 % des gens recommanderaient ce nom. Par ailleurs, l'appréciation des cafetières de Longhi varie puisque leurs performances sont assez inégales, ce que les réparateurs nous ont confirmé. Assurez-vous donc de choisir un modèle faisant partie de nos recommandations. C'était « De beau matin, que vous cherchiez une cafetière à espresso manuel ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer ». Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous.
Comment choisir une résidence privée pour aînés? Un article de Marie-Ève Schaffer, journaliste, et Tico Arena, chargé de projet, paru le 16 janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous, dans le cadre d'une enquête de satisfaction effectuée par les auteurs auprès de 3 500 personnes habitant une résidence privée pour aînés. Le Québec est la province canadienne où les personnes âgées de 75 ans et plus optent en plus grand nombre pour la vie en résidence privée pour aînés, RPA. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, SCHL, 17 % d'entre elles avaient opté pour ce type d'habitation en 2021, alors qu'ailleurs au Canada, ce pourcentage se situait entre 5 et 10 %. Pour ces aînés, quitter un domicile où ils ont vécu pendant plusieurs années, voire des décennies, peut s'avérer une expérience pénible. C'est une étape phare parce qu'on réalise le temps qui passe, souligne la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Ils réfléchissent ainsi au vieillissement, à la perte éventuelle de leur autonomie et même à leur mort. Leur capacité d'adaptation est aussi mise à rude épreuve dans ce changement de maison. C'est important qu'ils verbalisent ce qui est émotionnellement difficile, insiste la spécialiste. Que vous envisagiez d'aller vivre dans une RPA ou que vous accompagniez un proche dans ce projet, gardez en tête que ce déménagement peut susciter un choc émotif, surtout s'il est effectué rapidement. La décision est prise? Vous avez intérêt à dresser d'abord un budget et à déterminer les besoins auxquels la RPA devra répondre. Après quoi, informez-vous sur les résidences et visitez-en quelques-unes. Selon les experts consultés, la RPA parfaite n'existe pas, mais il y a moyen d'en trouver une où vous ou votre proche pourrez couler des jours heureux. La première étape consiste à faire un budget. Notez qu'en 2021, la SCHL évaluait qu'au Québec, le loyer mensuel moyen d'un logement sans service s'élevait à 1 922 $, alors que celui d'un appartement avec service atteignait 3 653 $. Attention! Des aînés commettent l'erreur de penser que leurs dépenses diminueront en déménageant dans une RPA puisqu'ils feront moins de sorties. Il y a en effet un changement dans le mode de vie. Cependant, si on rajoute tous les services selon les besoins de la personne, le prix a tendance à augmenter, signale Patricia Girard, conseillère principale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Passez d'abord en revue les sources de revenus. Par exemple, les montants mensuels qui viennent d'un régime de retraite, d'un fonds enregistré de revenus de retraite, FERR, ou d'un fonds de revenus viagers, FRV. À cela, il faut ajouter les allocations versées par les gouvernements du Québec et du Canada, telles que le régime des rentes du Québec, RRQ, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti. Si l'aîné est propriétaire d'une maison et qu'il décide de la vendre avant de déménager dans une RPA, la liquidation de cet actif doit être considérée dans les calculs. Une fois que la maison est vendue, cela augmente les possibilités, dit Patricia Girard. En vivant dans une RPA, l'aîné a aussi droit à des crédits d'impôt du gouvernement du Québec. En voici deux incontournables. Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Montant accordé aux personnes âgées de 70 ans et plus pour couvrir 36 % en 2022 des frais admissibles, services de buanderie, préparation de repas, entretien ménager, soins infirmiers et assistance personnelle. Il dépend des revenus de la personne, si elle est autonome et si elle vit en couple ou non. Crédit d'impôt pour soutien aux aînés. Somme versée aux aînés de 70 ans et plus selon leurs revenus. En 2023, elle peut atteindre jusqu'à 2 000 $. Pour avoir l'heure juste et pour profiter de tous les programmes et crédits d'impôt, vous pouvez faire appel à votre institution financière. Si la situation est plutôt complexe, par exemple, s'il y a plusieurs actifs en jeu, retenez les services d'un planificateur financier. Avant de rechercher une résidence, il faut déterminer les besoins à combler. Sachez que les RPA sont classées selon les services qu'elles donnent. Catégorie 1. Organisme à but non lucratif qui offre au moins 2 services de base. La préparation de repas, des mesures de sécurité, l'organisation d'activités de loisirs et une aide domestique. Catégorie 2. Entreprise privée qui offre au moins 2 services de base. Catégorie 3. Résidence qui offre au moins 1 service de base en plus des soins infirmiers ou d'un service d'assistance personnelle. Catégorie 4. Résidence qui offre des soins infirmiers, un service d'assistance personnelle et au moins 1 service de base. Les RPA, qui font partie des 2 premières catégories, accueillent des retraités en pleine possession de leurs moyens, alors que celles qui sont classées en 3 et 4 prennent soin de ceux qui ont besoin d'assistance au quotidien. Une même résidence peut recevoir des personnes de différents degrés d'autonomie. Par exemple, elle peut comprendre des logements où vivent des aînés qui obtiennent peu ou pas de services et une unité de soins qui héberge des gens semi-autonomes. Les locataires peuvent ainsi rester dans leur RPA, même si progressivement, ils ont besoin de davantage de services. C'est important de demander si la résidence est évolutive et si elle est capable de s'adapter aux besoins de l'aîné, note Nathalie Perrault, directrice générale du portail Résidence Québec. Si un locataire perd peu à peu ses capacités et qu'il se trouve dans une RPA d'une catégorie qui ne correspond pas à ses besoins, il doit quitter la résidence, ce qui entraîne un autre déménagement et une nouvelle vague d'émotions. Dès que la personne atteint 1,5 heure de soins par jour, elle doit aller dans un CHSLD ou une résidence intermédiaire. Les RPA ne sont pas équipés pour la garder, indique Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA. Des professionnels peuvent vous épauler pour déterminer dans quelle catégorie de RPA vous devez orienter vos recherches. Si votre proche parent est en perte d'autonomie, demandez l'aide d'un travailleur social. Vous pouvez en trouver un en contactant le guichet d'accès en soutien à domicile de votre région ou un CLSC. Au cours d'une visite, le travailleur social évalue l'état de l'aîné à l'aide notamment du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Ce questionnaire passe en revue les capacités de la personne dans ses activités quotidiennes, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène personnelle, etc., et ses habiletés à communiquer, la locution, la vue et l'ouïe. Il examine aussi ses facultés mentales, la compréhension, la mémoire, le jugement, etc., et ses aptitudes à accomplir des tâches domestiques, préparer des repas, entretenir la maison, se déplacer, etc. Que l'aîné soit en perte d'autonomie ou pas, un conseiller privé en hébergement peut aussi donner un coup de main. Son travail consiste à effectuer des recherches pour trouver une RPA qui correspond aux besoins, aux intérêts, aux préférences en matière de logement, ainsi qu'aux moyens financiers de son client. Le but, c'est d'amener la personne dans un endroit où elle va rester le plus longtemps possible, explique Nathalie Perrault. Le conseiller en hébergement peut-il vous suggérer une résidence qui présente des lacunes? S'il y a un problème avec l'un de nos clients, on va confronter la RPA. S'il n'y a pas de changement, on arrête de la recommander, indique Louis Sirois, président de l'Association des conseillers en hébergement du Québec, ACHQ. Il ajoute que ses membres partagent entre eux des informations sur les résidences problématiques. Sachez que ce sont les RPA qui rémunèrent le conseiller en hébergement. Dans nos ententes, elles ne peuvent pas refiler la note à l'aîné et celui-ci a droit à tous les escomptes et promotions en vigueur. Cherchez-vous une RPA qui accueille quelques dizaines d'aînés ou un vaste complexe immobilier? Les petites résidences offrent moins de services, mais l'ambiance est plus familiale et la proximité entre les locataires et le propriétaire plus grande. Quant aux RPA, qui abritent des centaines de personnes, elles s'apparentent à des villages, avec des commerces sur place et de nombreuses installations, piscines, bibliothèques, cinémas, salles de quilles, etc. Si le prix constitue un facteur important pour vous, cherchez du côté des RPA indépendantes ou même des coopératives d'habitation et des organismes à but non lucratif qui reçoivent des aînés ayant des revenus modiques. Avant de jeter votre dévolu sur une RPA, vérifiez si elle détient une certification de conformité délivrée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, en consultant le registre en ligne. Pour obtenir cette certification, les établissements doivent respecter plusieurs exigences comme de disposer d'un système d'appel à l'aide et avoir élaboré un code d'éthique pour le personnel. Toutes ces recherches sont importantes, mais rien ne vaut une visite. Vous avez avantage à aller voir deux ou trois résidences pour comparer les prix et les services. Les experts interrogés vous conseillent de ne pas vous attarder à la belle décoration et aux fauteuils confortables. Ils ne garantissent en rien la qualité des services. Au cours de votre passage dans une RPA, vous pourrez faire le tour d'un logement, assister à des activités de loisirs et prendre un repas à la salle à manger. Posez toutes vos questions aux dirigeants que vous rencontrez et interrogez même les résidents que vous croisez à propos de leur satisfaction générale. Dans le cas où toutes les modalités vous conviennent, vous devez conclure un bail. Les dispositions doivent respecter les règles du Tribunal administratif du logement, TAL. Le futur résident, son tuteur ou un proche muni d'une procuration, doit signer 1. Le formulaire de base qui précise les coordonnées du locataire et du locateur, ainsi que la description de l'appartement, le loyer et la durée du bail. 2. L'annexe 6, qui indique les services non personnels, chauffage, climatisation, loisirs, etc., et les services personnels retenus, préparation des repas, assistance personnelle, soins infirmiers, aide domestique, etc. 3. Les règlements de la résidence, bruit, utilisation des espaces communs, gestion des déchets, interdiction des animaux, etc. La RPA remplit généralement l'annexe 6, mis à part les sections qui concernent les repas, les soins infirmiers et l'assistance personnelle. Si vous retenez ces services dans le bail, ils vous seront offerts sur une base régulière, sans possibilité de remboursement en cas d'absence de votre part. Sachez que vous pouvez également opter pour des services à la carte. Par exemple, si vous cuisinez vos repas tous les jours, mais qu'à l'occasion vous dînez à la salle à manger, vous achetez alors des coupons que vous utilisez à votre guise. Le coût des services est alors légèrement plus élevé. Jetez un coup d'œil à la procédure de renouvellement du bail. Si sa durée atteint plus de 12 mois, vous recevrez un avis écrit au moins 3 mois avant l'échéance en cas de modification. Si le propriétaire veut majorer le loyer, vous pouvez accepter ou refuser, auquel cas la RPA pourra demander au TAL de trancher. Vous n'avez pas l'obligation de déménager si vous rejetez l'augmentation, à moins que la RPA soit ouverte depuis moins de 5 ans. La clause F du bail lui permet alors d'imposer des hausses comme bon lui semble. C'était « Comment choisir une résidence privée pour aînés ?» un article de Marie-Ève Schaffer et Tico Arena, paru le 16 janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.